Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, ben, on rejoint au bout du fil les réalisateurs Martin Généreux et Michel Deguise pour parler du prochain film des aventuriers voyageurs à la Maison du cinéma. Bonjour, vous allez bien?
Hey, salut la gang, comment ça va?
Ça va. On vous reçoit pour... écoutez, il fait froid dehors, là, mais on lit le titre de votre prochain film et puis ça nous réchauffe déjà. Donc, Italie de la Toscane à la côte amalfitaine. Je serais curieux de vous entendre un peu là, sur qu'est-ce qui vous a donné, parce que c'est pas votre premier film pour les aventuriers voyageurs, mais qu'est-ce qui vous a donné envie, ou disons, ça a été quoi l'élément déclencheur de ce nouveau projet-là, de ce nouveau film-là?
Ben, si tu veux savoir la vérité, moi, perso, c'est les pâtes, parce que je pourrais manger à tous les jours.
Donc, je propose souvent des itinéraires à ma fin quand j'ai des projets pour faire des films, des voyages. C'est pas toujours aussi facile de vendre mes idées. Quand on est parti pour Prague et la République tchèque, il était vraiment réticent parce que lui, il avait une image d'un pays un peu communiste, un peu gris. Puis finalement, il a réussi à avouer après que j'avais raison. Fait que cette fois-ci, quand je suis arrivée avec un projet sur l'Italie, mais ça a tout de suite été oui. Je sais pas pourquoi.
Il n'y avait pas assez de pâtes là-bas.
Ouais, ben c'est ça. J'espère que vous n'avez mangé pour la peine. Là.
Oui, tout à fait. Tu vas pas là pour maigrir, ça, c'est sûr.
Mais c'est vrai qu'il a même pris des cours de pizza dans une petite trattoria à Rome. Donc, ça aussi, c'est assez spécial de le voir flipper les pizzas comme dans les films, là. C'est spécial.
Ouais. Donc, là, ben, comme le titre l'indique, vous intéressez surtout, disons, au centre de l'Italie, centre ouest, la côte ouest un peu, Toscane, côte amalfitaine. Pourquoi avoir choisi ces régions-là, puis pas peut-être le nord de l'Italie ou même le sud?
Ben, en fait, c'est qu'on est parti en 2019, puis on était parti pour faire un seul film. Okay. On a tellement filmé qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop d'images, puis de gens merveilleux qu'on a rencontrés, que ça a fait deux films. Donc, on a présenté l'Italie du Nord le printemps passé. Okay. Et puis, là, ben, c'est...
On est rendu à la partie centrale, dont la Toscane, la côte amalfitaine et Rome. Et là, on retourne en septembre pour finaliser notre trilogie, un peu comme trois films du parrain. On va avoir le sud, la Sicile et la Sardaigne.
Ah, ben, ça va être très intéressant. Moi, je suis déjà allé en Italie. Puis, évidemment, c'est un pays très riche culturellement, très historique aussi. C'est quoi, disons, le filon que prend le film? Est-ce que vous avez une prépondérance peut-être pour l'aspect culturel, l'aspect historique, les pâtes? Ça a été quoi? Est-ce qu'il y a un filon justement un peu plus présent dans ce film-là?
Ben, en réalité, notre défi justement, quand c'est une destination qui est très connue de la plupart des Québécois, mais c'est de présenter une Italie différente et autrement. On avait comme défi de vraiment vous surprendre, vous amener dans des petits coins cachés, secrets. Dans notre premier film, la partie au nord, dans les Dolomites, les gens avaient vraiment l'impression d'être en Autriche plus qu'en Italie. Là, c'est sûr qu'on a rien avec des paysages un peu plus, qu'on est habitué un peu plus de voir, mais encore là, il y a moyen de sortir des sentiers battus parce que nous, on essaie de toujours faire avec des petits producteurs, soit dans une plantation de citron en étage sur la côte amalfitaine, où on a même eu la chance de faire une entrevue avec une Québécoise qui, depuis 12 ans, s'est établie en Toscane. Elle a acheté des terres, un vignoble à Gael and Chianti. Et là aussi, on avait l'intérêt de voir comment une Québécoise qui est dans un milieu quand même assez macho, on va se le dire, peut arriver à faire sa propre business à travers d'autres vignerons, parce que souvent, c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. Donc, elle a réussi à faire vraiment sa place et elle exporte même ici au Canada. Donc, dans les SAQ, on peut aller voir... on retrouve des vins de la Médicine. C'est intéressant de voir et son parcours, qu'est-ce qui l'a motivé, comment un expat est devenu, dans le fond, une personne qui habite là à temps plein. Donc, c'est un petit peu tout ça, là. Vraiment aller voir les gens, aller au-devant des gens, voir le côté humain, mais aussi sortir des sentiers battus pour trouver des twists, des coins secrets. Puis, c'est ce qui est intéressant avec les aventuriers voyageurs, parce que, vous savez, cette année, ils fêtent leur 15e anniversaire, donc ça fait déjà 15 ans. Et le principe, c'est vraiment d'avoir des cinéastes, conférenciers qui viennent avec plein de propositions de projets de films différents. Donc, ça nous amène vraiment des visions différentes. Et nous, ben, c'est vraiment ça, là, aller côté humain, aller sortir des sentiers battus puis rencontrer les gens.
Puis moi, j'avais un défi de conduire sur la côte amalfitaine. Ouais. J'ai adoré ça. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Ouais.
Mais parlant de défis, lorsqu'on tourne un film de voyage, c'est quoi les défis que ça engendre quand on est comme dans un état d'esprit de voyage?
Mais ben, un état de travail se... aussi.
Ouais,
ben... ouais, c'est sûr, il faut se réserver du temps pour en profiter aussi.
Mais pas beaucoup.
Ouais, quand tu fais la fin d'itinéraire, c'est assez serré. Mais
non, c'est toujours plaisant, c'est toujours quand même juste du bonheur, mais c'est certain que c'est différent de juste pouvoir aller visiter en tant que voyageur parce que on doit transporter évidemment tout l'équipement pour pouvoir tourner. Martin est pilote de drone professionnel, donc il a des. C'est comme ça qu'on réussit à avoir de très belles images de drone. Pas partout, je dois dire, parce que de plus en plus dans les villes, on ne tourne jamais avec le drone, c'est les no drone zones. Ouais. Mais dans les endroits où ils sont plus, villégiateux, peut-être pas villégiateux, mais des campagnes Toscane et ce genre d'endroits, ben, on peut se permettre à ce moment-là de sortir le drone. Mais on voyage toujours juste avec des sacs à dos. Nous autres, on a toujours fait ça. Qui fait en sorte qu'on est toujours habillé pareil dans le film parce qu'on a tous des équipements dans le sac à dos. Caméra, trépied, micro, drone et tout ça.
Ouais. C'est sûr que c'est une logistique un petit peu plus... c'est un petit peu plus long de planifier tout ça parce qu'il faut sortir l'équipement. Puis, mais on réussit toujours à en profiter quand même.
On essaie de faire beaucoup de travail avant le départ de recherche journalistique en sachant où est-ce qu'on va, quand on donne rendez-vous à certains intervenants, soit des petits maraîchers, des cultivateurs, des gens, on essaie de faire affaire avec des petites firmes, souvent familiales, comme la famille Bottone ou Ercolani à Montepulciano, pour pouvoir justement mettre ça en valeur. Donc, quand ils ont la gentillesse de nous offrir l'hospitalité chez eux, qu'ils nous reçoivent pour parler de leur passion, ben, tu sais, nous, on s'ajuste également à leurs horaires. Donc, c'est ce qui fait un peu que ça devient un peu plus complexe au niveau de la gestion du temps. Mais en dehors de ça, c'est vraiment juste du bonheur. Mm-hmm.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Pendant le pré-voyage, j'imagine, c'est très différent d'un voyage normal, là, vu que c'est pour
C'est beaucoup
pour
d'organisation, effectivement, pour pouvoir avoir le moment propice. Parce qu'on n'arrive pas, disons, en Italie, voir un vendange si on n'est pas en période, de... Nous, on était là en septembre-octobre, donc c'était parfait pour cette période-là, mais il y a quand même des endroits où est-ce que c'est pas nécessairement propice. Et on essaie d'être un petit peu en dehors des zones touristiques ou des endroits où il y a trop de touristes. On essaie de fuir ça le plus possible parce qu'on veut avoir vraiment un contact humain, que les gens aient le temps de nous recevoir puis partager avec nous.
Puis est-ce que vous laissez de la place un peu au hasard? Est-ce que vous faites des choix rendus là-bas ou vraiment tout est planifié d'avance?
Non, on se laisse quand même de la spontanéité. Là, on rencontre des gens des fois juste au hasard de la route. Puis on a rencontré dans les Pouilles justement, c'était notre hôtesse pour notre Airbnb qu'on avait loué. Là, c'est pas de savoir dans le prochain film, là, mais on l'a trouvée tellement intéressante que je lui ai demandé, j'ai dit est-ce qu'on peut faire une entrevue avec toi? Puis tout de suite, elle a dit oui. Puis elle parlait juste italien, donc elle a ajouté. Avec Google Traduction aussi, puis on a réussi quand même.
Mais tout le monde qui voyage sait que, de toute façon, même si on planifie les choses un peu à l'avance, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Quand on est arrivé dans une carrière de marbre aussi à Carrare, c'est la même chose. Donc, on doit s'ajuster, c'est certain. Mais ça fait partie des aventures puis du grand bonheur de pouvoir voyager puis de rencontrer des gens.
Mm-hmm. Puis, en termes de temps de préparation, vous préparez ça, avant le jour de prendre l'avion, ça prend combien de temps à organiser tout ça?
Ça dépend toujours des destinations, comme on a fait un film sur le Laos et le Cambodge. Et puis ça, c'était différent. On est parti 9 semaines, donc on a pris peut-être 2 à 3 mois pour le préparer. Puis on a réservé nos hébergements aussi sur place là-bas, peut-être 3 à 4 jours avant. Alors qu'en Italie, ça, on peut pas vraiment le faire parce que ça demande beaucoup plus de planification, parce que beaucoup, beaucoup de touristes, les hébergements, c'est difficile à obtenir. Donc on le réserve. Mais tu vois, le dernier voyage qu'on a fait en Italie...
Un mois et demi facilement pour pouvoir essayer de rentrer en contact avec les gens. Ça tombait qu'on partait en septembre et puis pendant la période d'été, ils ont des congés Ferragamo aussi, donc c'est difficile d'avoir des réponses. Évidemment, ils ont beaucoup, beaucoup de gens qui les visitent, donc ils sont un petit peu plus indépendants que dans certaines autres destinations où on est allé. Mais je dirais que quand même, on a eu un bon retour, là, quand même, un bon feedback. Ça a été la même chose pour... toutes les autres destinations, c'est certain qu'il faut quand même prendre des petites précautions parce que on veut avoir un film qui est quand même varié. Donc, on essaie de vivre des expériences immersives parce qu'on se dit que les gens qui n'ont pas la possibilité d'y aller, quand ils vont être assis dans leur siège, dans leur fauteuil, ils vont avoir l'impression de venir avec nous. Donc, des fois, on filme à la première personne aussi puis on essaie de traverser le troisième mur. On veut vraiment qu'ils sentent. Malheureusement, on ne peut pas faire goûter et sentir nécessairement toutes les odeurs. Mais le plus possible, on essaie de mettre ça en évidence.
C'est votre cinquième film, là, si je ne m'abuse. Vous avez mentionné le Laos, vous avez mentionné la République tchèque et tout. Est-ce qu'il y a un des films en particulier que vous diriez qui était le plus difficile à réaliser? Parce que le Laos, il doit avoir des contraintes un peu plus techniques qu'il n'y a pas en Italie, mais en Italie, il y a les touristes. Est-ce qu'il y en a un qui a été un plus grand défi que les autres?
Pas vraiment.
Non. On s'ajuste vraiment au pays en question, mais ça se fait quand même assez facilement.
Ouais. On essaie de maximiser aussi notre planification pour que rendu sur place, il y ait moins de perte de temps, je dirais, de toute façon, de choisir la saison. C'est sûr que quand on était au Laos, on était en saison sèche. Donc, ça aide aussi pour pouvoir aller dans chacun des petits villages en saison des pluies. Il y a beaucoup de boîtes, donc il y a des routes qui sont fermées. On prend tout ça en considération avant le départ. Rendu sur place, ben, il s'agit juste à ce moment-là de faire des belles expériences, de filmer le plus possible, d'essayer de trouver des petits moments, des petites pépites là, pour pouvoir rentrer en communication avec les gens. Puis des fois, on a des belles surprises. Hein? Puis souvent, maintenant, je vous dirais que c'est beaucoup plus facile avec Messenger, Facebook, Instagram. On peut s'envoyer des courriels. Puis même si on est à 8 heures ou 12 heures de décalage horaire, ben, ça répond rapidement. Puis c'est souvent comme ça que je suis rentrée en contact avec les gens. Et puis c'est comme ça que je suis restée en contact avec les gens après, qui sont vraiment devenus des amis. Puis par la suite, ben on sait quand un va se marier, avoir un enfant ou déménager. Fait que ça reste que c'est des relations qu'on réussit à créer qui va au-delà de juste les relations d'affaires ou de tournage temporaire. C'est autre chose que ce que les gens font, disons, quand ils sont de passage en voyage.
Mm-hmm. Comme on est une grosse équipe de deux, c'est beaucoup moins intimidant pour les gens qu'on rencontre parce que j'ai installé la caméra sur le trépied. On a une deuxième caméra. Ça se fait sous le couvert de la conversation, tout simplement. Donc, c'est pas une grosse caméra. Là. C'est une petite Sony 4K. Donc, ça se fait très, très bien avec les micro-cravates puis micro-shotgun.
Mm-hmm. On rappelle à nos auditeurs et auditrices là, que Italie, de la Toscane à la côte amalfitaine, ben ça sera diffusé à la Maison du cinéma le 19 mars prochain. Martin et Michel, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ben, ça nous a fait un grand, grand plaisir.
On vous donne rendez-vous. Hein? On veut vous voir et on veut vous faire vivre un peu le rythme de la Dolce Vita.
Oui.
Vous avez aimé le film, ben, venez nous faire un petit coucou sur notre page Facebook Trip Voyage. Puis on peut répondre à toutes les questions.
Génial. Et on attend impatiemment aussi le troisième volet de cette trilogie-là. Merci beaucoup.
Oui. Écoutez, on s'en va bientôt aussi à Vancouver, en Colombie-Britannique. Donc, on s'en va dans toutes les directions. Il y a d'autres nouveaux films, des beaux projets qui s'en viennent pour les prochaines années. De toute façon, les aventuriers voyageurs, c'est ça, hein? C'est plein de cinéastes indépendants qui vous offrent chacune leur vision du monde. Donc, on vous invite à aller voir aussi leurs autres projections.
Génial,
cette
merci.
Année, il y a un concours pour les 15 ans, un voyage pour deux personnes en Tunisie. Ça vaut la peine.
Oui, exactement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci.
Ciao.
Merci, Myriam.